Les voyageurs avaient presque regagné le sous-bois quand Kell, tirant sur les rênes, s'écria « Gare ! Embuscade !» Mais l'avertissement vint trop tard. Les cavaliers s'étaient déjà engagés trop avant. Au cri du page répondit un hourvari sinistre. Le tumulte éclata sur les deux flancs des compagnons, juste derrière les alliés. L'air fut déchiré par un hurlement de meute, le charivari d'une chasse qui célèbre l'alali sur pied. Le glapissement des limiers, la grosse voix des goussots et la voix grave des matins formaient un cœur féroce qui effaroucha une volée d'oiseaux et fit broncher les chevaux. Le temps de maîtriser les bêtes, et il était trop tard, la meute débuchait, prenait les voyageurs en tenaille. Mais nul chien n'apparut. Loré dégorgea une piétaille maigre et crottée. Ces gaillards étaient attifés de douteuses livrées où le seillon paysan épousait la cotte d'armes rapiécée et le pourpoint déchiré. Ces hardes de chiffonniers leur prêtaient méchante allure. D'autant plus méchante du reste qu'ils dardaient contre les cavaliers les fers de fauchard et de vouge emmanchés sur de solides hampes. Le plus saisissant toutefois provenait des hurlements, car la clameur de la meute se refermait sur le chevalier et ses gens. Et c'étaient des gueules édentées, écumantes ou rieuses de la truanderie que jaillissait l'aboiement. D'instinct, le sire de Vaumacel et son écuyer serrèrent le rang autour du page et de la remonte. Calant l'arbrier dans l'épaule, le vieux Nem pointait l'arbalète vers les brigands qui se faisaient trop hardis à son goût. Edan avait tiré l'épée, mais la gardait encore en position basse, le long de la jambe. Couvert du bouclier, il essayait de peser au mieux la situation avant de croiser le fer. 12 à 15 gens de pied venaient de les encercler, fort mal équipés, hors leurs coutelas et leurs lances. Cuirassé dans son harnois, porté par la fougue de son puissant Loriagor, le chevalier était assuré de percer cette canaille à volonté. Mais l'espace était exigu pour manœuvrer avant les lisières et revenir à la charge. Edan craignit qu'au milieu de la confusion, le couperet de ses vouges ne tranchât le jarret des chevaux de sa suite. Il lui répugnait de risquer ses bêtes, son équipement ou ses compagnons tant que l'escarmouche n'était pas franche.
« Arrière, pouilleux ! » clama-t-il. « Je vais vous apprendre le respect !»
Pour seul effet, la semonce souleva une cacophonie railleuse d'aboiements. Si la vieille jument pie de Nem et le grand destrier conservaient leur calme, les autres chevaux devenaient nerveux. Kell se mit également à japper, en toisant avec effronterie les aboyeurs les plus bruyants. L'impasse devenait dangereuse. Edan leva l'épée pour faire quelques exemples. Il ne l'abattit point. Au moment où le chevalier allait lancer son destrier, intervint un nouveau drôle. Il sortait tranquillement des taillis. Aussi crotté que les autres, un vieux gilet de buffle et le corps de chasse suspendu à sa ceinture lui donnaient vaguement l'allure d'un veneur. Mais c'était bien une hache d'arme qu'il avait posée sur l'épaule.
« Hé, tout quoi, mes beaux ? »
beugla-t-il avec un timbre un peu cassé.
« Tout quoi ? On n'entend point les politesses du prud'homme !»
Les vociférations décrurent, tandis que le gaillard, tout en restant derrière ses forbans, tournait un museau narquois vers le sire de Vaumacel.
« Et toi, chevalier, ne va pas trop vite en besogne. N'as-tu point de manière ? On parlemente avant d'en découdre. »
« Je ne vois personne digne de traiter avec moi, » rétorqua Edan. « Écartez-vous, toi et tes gueux, ou tu seras le premier à périr. »
La réplique provoqua des grognements hargneux chez les vougiers. Edan fit piaffer son destrier. La force du choc imprimé dans le sol provoqua malgré tout un léger flottement dans la ligne des lances.
« Qu'en sais-tu donc que nul n'est digne de toi ?»
protesta le chef de bande, en affectant d'être froissé.
« Nous n'avons même pas pris le temps des présentations. »
De la pointe de l'épée, Edan désigna le pendentif de croc que l'impudent portait en sautoir.
« C'est inutile. Je t'ai reconnu à ton collier, valet. Tu es l'engeance qu'on appelle le molosse d'Ouchain. »
Le mauvais plaisant se fendit d'un rictus et d'une révérence appuyée.
« Eh bien, tu vois, chevalier, » ricana-t-il, « puisque ma réputation est parvenue à tes nobles oreilles, c'est que tu as trouvé à qui parler. »
Du menton, il désigna l'écu du sire de Vaumacel.
« J'ai déjà vu ces couleurs quelque part, et tes grands airs ne me sont pas inconnus, chevalier. Rappelle-moi donc ton nom. S'il vaut son pesant d'or, je retiendrai mes matins afin qu'il ne morde pas trop. Que t'importe mon nom, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Apprends juste ceci. La seule rançon que je verserai te sera décomptée en bon acier. Allons bon. Tu brûles les étapes, l'épineux. À moins, bien sûr, que ces mots un peu vifs ne soient ta manière de te rendre. Saisis donc la bride de ce cheval et tu auras ton captif. Qu'attends-tu? Tu n'as que 3 pas à faire. Et que ferais-je d'un otage si désagréable? J'ai déjà peine à nourrir ma meute. Lui faudrait-il partager sa mouée avec toi? Je crains de n'être pas assez bien disposé pour me montrer aussi large.
Le maître truand leva une main aux ongles crasseux, en feignant l'air d'un homme raisonnable.
Reprenons depuis le début, chevalier, car je crois qu'il y a méprise. À l'évidence, tu me prends pour un malotru, et j'en suis bien mari. Crois-moi, je ne suis point venu à toi animé de mauvaises intentions, bien au contraire. Avec mes dogues, je me suis dépêché afin de veiller sur ta sécurité et celle de tes gens. Il ne t'en coûtera que ce qu'exige la coutume. Un modique droit de passage. Quel droit t'arroges-tu? Celui de gueux sans feu ni lieu? Cesse donc de fatiguer ma patience, ou c'est un péage selon ma coutume que tu vas récolter.
Que voilà une discussion mal engagée, s'irrita le chef de bande.
Paladin, ton orgueil va te coûter beaucoup plus cher qu'une bourse ou un cheval.
L'honneur est à ce prix.
L'honneur, l'honneur, grommela le gredin.
Et soudain, il partit d'un éclat de rire. Sa tête louche s'en trouva tout illuminée de rides.
Ah, ça y est, je te remets, chevalier, s'écria-t-il joyeusement. Ces épines, cette morgue, ce ton collet monté, corbleu, depuis toutes ces années, tu n'as pas changé. Je n'en dirai pas autant de ton écuyer qui a bien blanchi. Comment t'appelais-tu déjà? Vaumacel, non? Ouais, c'est cela. Edan de Vaumacel.
Le chevalier ne parvint pas à dissimuler une expression de surprise, où le déplaisir d'être reconnu par un être civil le disputait à l'étonnement. Cette réaction amusa le malandrin.
« Ah, ça y est, j'ai piqué ta curiosité !» se engorgea-t-il. « Tu te demandes où diable tu as pu t'acoquiner avec ma noble personne ?»
J'arrête rarement les yeux sur les valets.
« Je vois cela !»
ricassa le maître truand, sans pour autant prendre la mouche.
« Et pourtant, tu n'es pas si loin du compte. »
« Oh, bien sûr, c'était dans une autre vie. L'eau a coulé sous les ponts depuis lors.
Rappelle-toi, remonte à l'époque de la guerre du duc contre le comte Anguzel. Ça ne date pas d'hier, d'accord, mais cela devrait te mettre sur la voie. »
Edan ne put s'empêcher de scruter le mauvais drôle. Le molosse lui affrontait le faciès raviné, prématurément vieilli, des coureurs de route. Contre toute attente, il n'était pas très grand, mais sa forte charpente et surtout son insolence lui prêtaient une présence qui compensait cette taille médiocre. À la réflexion, il n'était pas exclu que le sire de Vaumacel eût déjà croisé cette méchante figure par le passé. Impossible cependant de lui donner un nom. Le molosse avait-il été de ces capitaines de fortune stipendiés pour seconder les banneries du comte dans la défense de ses terres? Quoique son langage fût moins grossier que celui de force mercenaire, Il en avait bien le culot. Le chevalier n'avait que trop souffert la compagnie des rustres de son acabit sur les marches de Brockmel, dans la vallée de la Claye, jusque sur les confins de la principauté du Sacre. Difficile de distinguer ce maroufle des soudards de la même espèce. Finalement, ce fut Nem qui tira son seigneur d'embarras. Le visage du vieux Lige s'éclaira.
« Mais oui !» s'écria-t-il. « Je le reconnais. C'est Cassian. »
« Qui donc ?» demanda le chevalier à qui ce nom ne parlait guère.
« Cassian de Conomel, l'écuyer de Sir Morial. »
Le molosse se fendit d'une nouvelle courbette dont l'irréprochable ironie jurait plus que jamais avec sa mine.
« Serviteur, mes seigneurs » railla-t-il.
Eddan le toisa avec un regain de sévérité.
« Ça, l'écuyer de Sir Morial, Bilvesé. Moi-même j'ai parfois peine à le croire, »
reconnut le forban avec une feinte modestie. « Ce ne peut être lui, » poursuivait le chevalier à l'adresse de son propre écuyer. « Quand Houchin est tombé, nul n'en a réchappé. »
« Hélas, tu dis vrai, Vaumacelle !»
se rembrunit le chef de bande. De la main gauche, il tira sur son coltin. Sous le poil d'une barbe mal taillée, il découvrit son cou, marbré d'une vilaine cicatrice.
« Le bâtard et Brass Grovel m'ont fait pendre en compagnie des derniers défenseurs. Ils voulaient que nous jouissions plus longtemps du spectacle. Ça les faisait rire, les fils à putains. » Mais la branche où on m'avait accroché a fini par casser sous le poids des corps. L'écuyer du seigneur Douchin est mort au bout d'une corde. Le molosse Douchin s'en est libéré. C'est bien lui, confirma Nem. Les ans ne l'ont pas épargné, mais Cassian avait cette allure. Pas bien grand et assez cavalier.
Le doute puis la consternation se substituèrent au scepticisme sur le visage d'Eddan.
« Ainsi donc, voici la raison de ce brigandage, » saisit-il.
« Brigandage, quel vilain mot !» grogna le molosse. « J'exerce mon droit sur les étrangers qui traversent cette terre, et je finirai par faire justice de ceux qui l'ont usurpé. »
Mais le chevalier de Vaumacel secouait la tête d'un air réprobateur.
« Je comprends votre querelle, Sir Cassian. » Et je me surprends même à admirer la loyauté conservée à l'endroit de votre défunt seigneur. Cependant, Sir Morial avait reçu Houchin en fief, et non vous. Le péage que vous réclamez n'est que rapine. Quant à votre combat, il n'a d'autre motif que la quête de vengeance. Si fragile soit-elle, voilà longtemps que la paix a été scellée entre Kimark et Bromel. C'est pour la conclure que le comte Anguzel a cédé Houchin au duc. En contrevenant à la volonté des deux suzerains, vous agissez en rebelle.
Peste ! S'exclama le chef de bande. Tu m'en apprends de belle !
Pour la première fois, il se montra ouvertement agressif. Agitant sa hache en direction du sire de Vaumacel, il l'apostropha.
Ravale tes sermons, prud'homme ! Qui es-tu pour me faire la leçon ? Où étais-tu pendant qu'on s'entretuait dans ces collines?
Vous le savez fort bien, Cassian. J'avais prêté mon épée au comte, qui m'avait requis à la défense du château de Mortemarck. Là-bas, c'est au banc du duc en personne que nous avons dû résister.
Résister? Ah, vous avez rendu les armes.
Cette décision était celle du comte, non la mienne. Elle était certes douloureuse, mais sage. Pendant que les nobles maisons du duché se faisaient la guerre, plusieurs clans d'Ouromagne nous avaient tournés et ravageaient l'allant de Viesse. Il était temps de faire une trêve pour retourner nos forces contre l'ennemi commun.
Le molosse expectora un rire chargé de fiel.
« L'ennemi commun » gloussa-t-il. « Tu veux parler de ces mercenaires ouromans dont le bâtard a fait sa garde ? Croyez-vous être meilleur qu'eux ? En détroussant le voyageur. Que veux-tu, chevalier? C'est un impôt de guerre.
Je manquerais à mon rang si je m'y soumettais. Hélas, Circassien, vous me contraignez au combat. Voici folie d'autant plus grande qu'ainsi vont s'affronter deux ennemis du duc. L'un d'eux est assez pleutre pour avoir fait la paix avec Ganelon, gronda le molosse. J'ai respecté la parole donnée au comte Anguzel. Et c'est au nom d'un autre engagement que je ne saurais céder à vos menaces. J'ai besoin de tout mon équipage pour me joindre à un nouveau défi lancé au duc Ganelon. Même si j'éprouvais la moindre sympathie pour votre cause, je ne saurais lui distraire un cheval ou de l'or. Pillez-moi si vous l'osez, mais sachez que vous y perdrez plus que vous n'y gagnerez.
Une lueur hostile couvait dans la prunelle du molosse. Les pourparlers avaient été trop longs à son gré et risquaient de saper l'autorité qu'il exerçait sur sa bande. Il avait toutefois assez de jugement pour savoir que le sire de Vaumacelle ne se vantait pas. Si l'on croisait le fer, la meute l'emporterait sans doute, mais après avoir versé un lourd tribut de sang. Le jeu n'en valait pas forcément la chandelle. Alors le maraudeur saisit la perche qui lui était tendue.
« Un défi à Ganelon ? Qu'est-ce que c'est que ce conte ?
L'ignominieuse répudiation de la duchesse est source de discorde dans la maison ducale, répondit Edan. Blancandin sans escrègne et, paraît-il, son frère Méléagant de Verre, ont pris le parti de leur mère. Ils ont le soutien du comte Anguzel. Monseigneur Blancandin m'a requis de me joindre à leur ligue, ce à quoi j'ai consenti. »
Le maître brigand ne dissimula pas un mouvement d'intérêt.
« Va-t-on entrer en guerre ? »
s'enquit-il avec convoitise.
« Pour l'heure, il n'est question que d'un tournoi qui sera disputé le mois prochain à Lindinas. L'enjeu en sera l'honneur de Madame Odéarde. Le gant vient d'être jeté au duc.
« Un tournoi ? »
s'indigna le molosse.
Il cracha avec mépris.
« Tu te moques de moi, Vaumacelle, un tournoi ? Et pourquoi pas un bal ?»
Il y aura autant de coups à prendre sur le pré que dans vos petits coupes-gorges. Et il y aura sans doute beaucoup plus de gloire, et même d'or, à y glaner. Le comte Anguzel y adoubera Monseigneur Blancandin. Le camouflet sera peut-être assez cuisant pour que le duc sorte du champ clos et attaque à nouveau Kim Mark. En tant qu'écuyer, Circassien, vous seriez en droit d'entrer sur la lice. En tant que chef de bande, vous pourriez même décrocher une solde de capitaine, pour peu que la guerre éclate.
Le maraudeur prit le temps de peser ses perspectives, mais il gardait un air réticent.
Même pour faire enrager Ganelon, je n'aime pas l'idée d'embrasser la cause de ses fils, grommela-t-il. Dans quel camp se trouve le bâtard ?
Je n'ai pas de certitude sur son allégeance. Monseigneur Blancandin se méfie de lui au point de l'éviter. Il semble que Domnall Fitzganelon restera loyal à son père.
Sans oublier que le comte risque de partager tes préventions, grimaça le gredin, et de me faire tâter du cul de basse-fosse.
Lindinas sera un pardon d'armes, et faire montre de vaillance pourra laver bien des tâches.
Au rictus qui lui tordit la face, il était clair que le molosse n'y croyait guère.
« Supposons que je te fasse une faveur, »
reprit-il néanmoins,
« et que je t'accorde gracieusement le passage. Me rendrais-tu là pareil ? M'introduirais-tu dans les nobles compagnies de la fête ? » ?»«
Au vrai, ma réputation est flétrie et je compte moi-même la restaurer en champ clos. Pour le moment, ma recommandation vous desservirait plus qu'autre chose.
Il m'en coûte de le dire, mais ce serait mon infamie plus que mon crédit qui nous vaudrait de combattre dans le même conroi.
Eh bien voilà qui est convaincant,
ricana le maître brigand.
Qu'as-tu donc fait pour être aussi méprisé qu'un pauvre molosse ?
Il faut que vous soyez terré au fond de vos forêts pour l'ignorer,
rétorqua Edan avec humeur.
« Vivre retiré du monde élève l'âme, » bouffonna le maraudeur. « Allons, soulage ta conscience, chevalier, et j'allégerai peut-être ta pénitence. Quelle vilainie te vaut l'infamie ?»
En deux mots commençant, je ne me suis pas présenté devant la justice du duc, et cela a porté préjudice à une dame. »
Les yeux chassieux du molosse pétillèrent.
« Comment ? Tu as échappé à la justice du duc ? Mais que ne l'as-tu dit plus tôt ?»«
Je ne me suis pas dérobé, » précisa Edan d'un air pincé. « J'étais retenu par d'autres devoirs. »
Le maître brigand approuva vigoureusement du chef.
« Eh oui, l'existence est mal faite. Il en va souvent ainsi, »
abondait-il.
« Et c'est ce que les juges ne veulent pas entendre. Ah, chevalier, je ne suis pas l'homme qui te lancera la pierre. Tiens, cela me fait plaisir de tomber sur un frère d'infortune. Je serais vraiment mesquin de te faire payer. Allez, je t'offre le passage. D'ailleurs, où diable allez-vous loger cette nuit, toi et tes gens? Il n'y a plus un honnête gîte à 10 lieues à la ronde. Faites donc étape dans ma tanière, nous souperons ensemble. La chair paraîtra un peu maigre, mais le cœur y sera. Nous nous raconterons nos misères. Nous trinquerons à la mort de Ganelon et de sa race. »
Le chevalier de Vaumacel avait suivi cette tirade en conservant un certain quant à soi.
« Circassien, s'offusqua-t-il, me prenez-vous vraiment pour une dupe ?»«
Eh quoi ?» plaida l'autre avec un sourire en coin. « Il fallait bien que j'essaie. » »«
J'ai néanmoins entendu que vous nous offrez le passage. » Je vous prends au mot.
Et je ne suis pas du genre à me dédire. Mais je t'ai aussi offert l'hospitalité, Vaumacel. Tu vas m'insulter si tu la refuses.
En déclinant l'invitation, je vous épargne la tentation de violer vos devoirs. Tout bien pesé, c'est un service qui compense l'offense.
Décidément, tu te fais une triste idée de ce pauvre molosse.
Une note de colère tremblait dans le timbre du chef de bande. Mais il finit par hausser les épaules.
« Quoi que tu aies fait, je ne suis pas pire que toi, chevalier, »
gronda-t-il.
« Dépêche-toi de filer avant que je ne me ravise. En tout cas, tu as eu raison de fuir la justice ducale. Ganelon aurait fait arracher ta maudite langue. »
D'un geste, il ordonna à ses hommes de relever leurs lances et d'ouvrir un passage. Plus méfiant que jamais, le sire de Vaumacel fit sortir ses servants et les chevaux devant lui, se réservant l'arrière-garde. Quelques rustres moquèrent leur retraite de glapissements accoardis, mais la canaille ne bougea pas. Quand les 3 cavaliers se furent éloignés d'une bonne portée d'arc, le chevalier fit volter son cheval.
« Au fait, sire Cassian, »
cria-t-il,
« avez-vous des nouvelles de Milouin ? Qui ça? Un enfant de Goborchin qui a disparu depuis un mois. Un gamin? Qu'est-ce que je ferais d'une bouche inutile? »
Edan acquiesça brièvement.
C'est bien ce que je pensais,
convint-il.
Ah, tiens, chevalier, puisqu'on échange des confidences.
Et là le molosse en retour.
As-tu idée de la route que prendront les champions pour se rendre au tournoi? Le saurais-je que je me garderai bien de vous l'apprendre. Je ne consentirai à vous dire que ceci. Il y en a peu qui suivront le même chemin que moi. »
Sur ces mots, le sire de Vaumacel tourna bride et mit ses pas dans ceux de ses compagnons. Dans leur dos s'éleva une cacophonie railleuse d'aboiements. Une fois sortis de cette embûche, les 3 voyageurs s'employèrent à prendre leur distance avec la bande de gredins. En gens de guerre, ils mettaient un point d'honneur à garder une mine impavide, et le page n'était pas le dernier à afficher un air crâne. Cependant, ils restaient sur leur garde. Quelle foi accordée à la clémence d'un détrousseur! Le molosse ne les avait peut-être laissés partir que pour endormir leur méfiance et guetter une occasion plus favorable. Après tout, le chevalier et sa petite suite s'étaient fourvoyés au cœur du territoire contrôlé par la bande. Dans ces collines retournées à l'état sauvage, leurs chevaux n'étaient quasiment d'aucun avantage. Le molosse et ses gueux devaient connaître 1000 sentiers qui leur permettraient de rattraper des cavaliers. Mais après avoir regagné la ramée, le chevalier et ses gens abandonnèrent le fantôme de chemin qu'ils avaient suivi dans la clairière. Tapissé de feuilles mortes, il égarait sa course de plus en plus indécise au fond de combes embroussaillées. Or, les voyageurs étaient à peu près certains d'avoir atteint le pied du Drucervin. Abandonnant ce sentier traître, ils attaquèrent le grand versant septentrional. Si pentu fut-il, le terrain se révéla moins bouleversé que le vallon de Senante. Une haie très majestueuse couvrait les épaulements du mont. Des arbres démesurés y avaient élancé leur couronne vers le ciel. Les arches des branches maîtresses s'entrecroisaient à 50 coudées au-dessus des cavaliers. La pénombre qui régnait sous cette nef en avait banni ronces et arbustes. De loin en loin gisaient les troncs de géants abattus. Mais l'espace était suffisamment dégagé pour les contourner. Les chevaux bronchaient un peu devant l'interminable côte à remonter, et leurs pieds soulevaient des paquets de feuilles pourries. La marche était toutefois presque aussi régulière que sur un chemin. Qu'elle gigotait sur sa selle et se retournait de temps en temps pour surveiller leurs arrières. Plus bas, les tréfonds des futaies s'abîmaient en de pensives torpeurs. Dans la vaste sérénité, il devenait ardu de rester aux aguets. Ces portiques sylvestres auraient rendu insignifiante la petitesse de brigands. Une paix intimidante purifiait l'âme des cavaliers à mesure qu'ils montaient. Très haut, à travers les arcs et les ogives des branches encore nues, ils apercevaient le ciel si bleu de la fin d'après-midi. Le soleil zébrait le terrain de l'ombre des hêtres, en diagonale qui inspirait d'harmonieux vertiges.
On dirait l'autre forêt, celle de jadis, finit par marmonner Nem.
Le sire de Vaumacel balaya du regard cette monumentalité sauvage.
Peut-être,
répondit-il sans avoir l'air convaincu.
Le charme en est moins violent.
Se tournant vers son page, il lui demanda
« Qu'en penses-tu, Kel ? Vois-tu quelque chose ?»«
Je vois des bois !»
rétorqua le godelureau qui se débattait avec un ronsin rendu rétif par la fatigue.
« Pour le reste, qu'est-ce que j'en sais ? Ce matin, on aurait dû suivre l'oiseau !»
La journée tirait à sa fin lorsqu'ils accédèrent au sommet du mont. Nul panorama ne se déploya sous leurs yeux. Ils restaient sous le couvert d'anciennes futaies. Divers signes leur révélèrent cependant qu'ils venaient d'achever l'ascension. Le terrain s'aplanissait devant la foulée des chevaux. N'ayant pas à chercher l'ensoleillement comme à flanc de coteau, les arbres y étaient de taille moins imposante. L'air s'y faisait également plus vif. Quelques plaques de neige fondantes s'attardaient à l'abri de troncs ou de souches. Les voyageurs s'arrêtèrent brièvement, pour laisser aux montures le loisir de reprendre leur souffle. Avoir gagné ces hauteurs donnait aux trois compagnons un sentiment de sécurité dont ils mesuraient du reste le caractère trompeur. Le crépuscule les baignait dans un poudroiement doré. Une gloire rasante réchauffait les écorces et faisait scintiller les armes. Pourtant, le chevalier et ses gens ne s'attardèrent pas plus que ne l'exigeait la lassitude des coursiers. Il se faisait tard. Ils avaient conscience d'être à la fois loin de tout et trop proches de la meute du Molosse. Du reste, il était imprudent de laisser les chevaux se refroidir. Au bout de quelques instants, ils se remirent en marche. Le sommet du Drucervin occupait une vaste superficie qu'ils mirent un moment à parcourir. Le vent balançait la ramée en bruissant de solennels murmures. Et l'on y respirait un air vif qui promettait de s'aiguiser après le coucher du soleil. Ce coin de forêt inspirait la révérence contemplative qui émane de certains hauts lieux. Mais la source de cette grâce demeurait impalpable. Seuls les arbres et quelques passereaux occupaient ce relief. La lumière oblique révélait parfois un talus ou un creux entre les racines, mais rien qui ne parût d'origine naturelle. Les cavaliers eurent beau chercher, ils ne découvrirent nulle ruine, pas même quelques décombres ou l'arête d'une vieille pierre de taille. Les rares bancs de neige n'étaient marqués que par des empreintes d'oiseaux et de petits gibiers. Seule une solitude séculaire
avait attendu les voyageurs sur cette cime.
« Il n'y a pas âme qui vive !»
grommela l'écuyer.
« Nous n'aurions pas dû nous fier à cet ermite. »
Le chevalier ne partageait pas sa mauvaise humeur. Il continuait de promener son regard à travers les sous-bois, l'expression presque rêveuse.
« J'ai parlé trop vite tout à l'heure, »
finit-il par concéder.
« Tu n'avais pas tort, même. L'envoûtement est subtil. Mais il y a quelque chose sur ce mont qui me rappelle les futaies bleues. Le frère Hummel ne nous a pas leurrés sur ce point.
« N'empêche, »
soupira le vieux Lige. « Nous voici comme devant, et la nuit ne tardera plus. »
Il était clair qu'il devrait loger à la Belle Étoile. Sans prendre la peine d'en dire plus, ils se remirent en marche. Malgré le couvert des arbres, allumer un feu sur le Drucervin aurait signalé leur campement à toutes les hautes terres d'Agurande, et peut-être au-delà, depuis la seigneurie du Trèfle jusqu'à celle de Neuvidine. Les voyageurs préférèrent profiter des dernières lueurs du jour pour bivouaquer en contrebas. Au lieu de revenir sur leurs pas, ils partirent en direction du couchant. À l'ouest des hautes terres commençait le comté de Kimark, où ils n'oubliaient pas qu'ils étaient requis. Ils abordaient la descente quand Kell se redressa sur ses étriers.
« Vous entendez ? »
s'écria-t-il.
« Quoi donc ? » demanda Nem.
« Le chant du coucou ! C'est le même qu'au début de l'après-midi !»
Après avoir tendu l'oreille, l'écuyer opina vaguement.
« Tu as raison, on entend un coucou qui te dit qu'il s'agit de celui de tantôt.
Je reconnais sa voix !»«
Tu es doué si tu parviens à démêler un coucou d'un autre coucou. Crois-tu qu'il s'agit d'un signal ?»
sentit le sire de Vaumacelle.
« Non ! Le cri est poussé par un gosier d'oiseau !»
assura le page.
« De l'ouïe ou de la présomption ?»
railla le vieux Lige.
« Je ne sais ce qui m'étonne le plus chez toi. »
D'un geste de la main, le chevalier abrégea le débat.
« Ne nous égayons point, »
déclara-t-il.
« Nous serions bien fous de courir après la jante ailée. »
À une allure prudente, ils s'engagèrent sur la pente, chevauchant un peu de biais pour éviter que les coursiers ne glissassent dans les feuilles mortes. La mine boudeuse, Kell suivit le mouvement. Il ne pouvait s'empêcher de jeter de brefs coups d'œil par-dessus l'épaule en faisant de visibles efforts pour tenir sa langue. Au bout de 50 pas, il n'y tint plus.
« Êtes-vous donc sourd ? »
regimba-t-il.
« N'entendez-vous pas l'autre oiseau ?»
Au loin, du côté méridional du mont, retentissaient de fait des criailleries turbulentes.
« Ce sont des cris de jais !»
s'exalta le freluquet.
La belle affaire,
persifla Nem.
Tiens, écoute-le donc, il te cause, il te traite de sot.
Indifférent au sarcasme, le page ne se tenait plus de curiosité.
Le jet ! Il se prend le bec avec un autre bavard !
Piaillait-il.
Une pie ! Ce sont des jacassements de pie !
Ce sont surtout tes jacasseries qui nous cassent la tête,
gronda l'écuyer. Ils n'avaient pas prononcé ces paroles que le vent leur apportait la plus étrange des rumeurs. L'écho ténu d'un chant, modulé par quelques voix flûtées, tremblait au fin fond des futaies. Il s'élevait, empli de la ferveur des cœurs de la Dame Douce. Mais cette polyphonie n'avait rien de liturgique. Pas plus qu'elle ne sonnait comme les villanelles des petites gens ou les motets et rondeaux des fêtes nobles. Cet air vibrait fragile, subtil, empli d'une harmonie un peu déroutante. Il s'évanouit au milieu d'une phrase musicale. La chaude lumière du soir parut s'étioler en même temps que l'hymne expirait.
« Corps de roi !»
s'étrangla Nem.
« Ça, ce n'était pas un oiseau !»
D'un seul mouvement, les cavaliers avaient tiré les rênes. Même les chevaux avaient tourné l'oreille en direction de la mystérieuse euphonie. Mais sous l'arc des branches, ne fusait plus que le criaillement de deux passereaux atrabilaires.
D'où cela venait-il ?
Demanda Edan.
De la même direction que le ramage des oiseaux,
répondit Kell.
Mais plus bas. Cela montait du versant sud.
Cet enchantement-là m'avait tout l'air de nous être adressé, jugea le chevalier.
C'est peut-être trop beau pour être vrai,
se défia Nem.
On se joue sans doute de nous, concéda Edan.
Aussi restons sur nos gardes.
Mais cela ressemble tant à leur manière. S'ils se sont lassés de courir et ont décidé de nous attendre, il serait grossier de nous dérober.
Tournant la bride, les voyageurs remontèrent la courte distance qu'ils venaient de descendre. Sur le sommet du Drusservin, les dernières lueurs du jour baignaient encore les arbres d'un cuivre languissant. La musique s'était évanouie, mais le caquet de deux oiseaux énervés irritait toujours l'oreille. Les adultes durent admettre que Kell ne s'était pas trompé. Le tapage des volatiles venait des coteaux méridionaux. Bientôt, ils s'aventurèrent sur ce dévers. La déclivité y était moins forte qu'ailleurs, ce qui permettait de chevaucher à une allure plus franche. En revanche, cette pente douce paraissait infinie, engloutie au fond d'inépuisables rangées de troncs et de fûts. Peut-être n'était-ce qu'une illusion produite par le crépuscule, mais les hêtres de ce versant paraissaient d'une taille encore plus impressionnante que ceux du flanc nord. Très haut, griffés de rames enchevêtrées, s'affadissaient les carmins du soir. Au sol, l'atmosphère devenue grise se faisait plus sonore. Elle donnait le sentiment que le duo vindicatif se trouvait à deux pas, alors que les oiseaux demeuraient invisibles. Une première étoile se mit à scintiller dans le ciel mauve, lorsqu'enfin les cavaliers distinguèrent du mouvement. Assez loin, juste sous les branches maîtresses, deux ombres ailées se querellaient en plein vol, traçant de brusques embardées qui s'éloignaient et se rapprochaient des voyageurs. Ce fut à son jabot blanc que les cavaliers reconnurent une pie. Le plumage du second bavard se détachait moins dans la pénombre, mais son cri plus désagréable que celui de l'agace était sans conteste poussé par un jet. Les deux animaux se livraient à un balai hargneux, fondant tour à tour l'un sur l'autre et s'évitant d'un coup d'aile. Cette chamaillerie virevoltante de détours, de piquets et de boucles les entraînait toujours plus bas vers le pied du mont. Distraits par ce manège, les cavaliers ne s'aperçurent pas que, de ci, de là, au milieu du réseau de racines, ils commençaient à dépasser quelques touffes de pattes d'ours et de primes verts. Ils ne prêtèrent pas plus attention aux frisli discrets de sources surgies entre les pierres.
« Il y en a un troisième ! Voyez ! Voyez !» s'écria Kell,
et son timbre perçant emplit de sombres futaies. Suivant la direction montrée par le page, Edan et Nem entrevirent en effet une esquive grise, à peine distincte, qui planait à une portée de pierre des deux babillards. On aurait pu la confondre avec un faucon, mais ses battements d'ailes n'avaient pas l'indolence d'un rapace.
« Coucou, coucou !»
appela Kell dans un rire, ce qui lui valut une réprimande de Nem. Au même moment, le chevalier, qui marchait en tête, tira sur les rênes et plaça son destrier en travers de ses suivants. Les autres chevaux le bousculèrent sans que frémît l'énorme monture de bataille.
« Taisez-vous donc, Nigo !»
pressa Edan dans un murmure. Tout en bas du coteau ourlé de nuit, une lueur chaude scintillait entre les arbres. Par infortune, la mise en garde du chevalier était arrivée trop tard. Du côté de la lumière s'éleva la grande menée d'une meute. Interrompant leur chicane, la pie, le jet et leurs discrets compagnons s'enfuirent à tire-d'aile.
Un maudit valet s'emporta Edan contre ses gens.
La boîte qui résonnait dans la futaie n'avait rien de commun avec les hurlements braillés plus tôt par les forbans du molosse. Poussé par plusieurs bêtes, cet aboiement d'avertissement répercutait dans le crépuscule un écho presque spectral. Les trois compagnons en eurent le frisson. Et pourtant, quoique porteuse de menaces, la clameur possédait un rythme chantant. Un puissant hennissement se mêla au cœur des chiens de garde. Il fit sursauter les chevaux des trois voyageurs, y compris le grand destrier. Quant au beau pâle froid du chevalier, il encensa de façon allègre. Bientôt, des appels et des ordres se mêlèrent au vacarme pour rétablir le silence. Ils étaient criés par plusieurs voix d'enfants. « Douce dame, nous les avons trouvés !» souffla Nem d'un air plus inquiet que réjoui. D'un coup d'œil, Eddan vérifia que ce vaste sous-bois se prêtait aux manœuvres montées. « Quel Archegueil ! » ordonna-t-il. Dans le bagage de la bête de charge, le page s'empara de la plus courte des lances et la tendit à son seigneur. Une fois qu'il eut empoigné l'arme, le sire de Vaumacel ajouta « Vous deux, restez avec moi. Je ne crois pas qu'il te ferait du mal, Kel, mais il pourrait t'entraîner avec eux. Quant à nous, il échangea un regard avec son vieil écuyer. « Soyons parés à toute éventualité, » conclut-il. Pressant les flancs de leur monture, ils se remirent en marche en direction de la lumière et du bruit. Un ou deux chiens lançaient encore des mises en garde, de façon un peu erratique. Des timbres enfantins babillaient parfois. La chanson des sources gazouillait de plus en plus sonore dans la tombée de la nuit. À mesure qu'ils s'approchaient, les trois compagnons se rendirent compte que ce coin de forêt était éclairé par plus d'une flamme. Les chevaux baissaient parfois la tête avec gourmandise. Ils traversaient à présent un sous-bois parsemé de primes verts et de pâquerettes. Lorsqu'ils franchirent les derniers rideaux d'arbres, les cavaliers découvrirent un campement fastueux. La lumière provenait d'une double rangée de grands flambeaux plantés dans le sol, qui transfiguraient la futaie en un palais sylvestre. Cette illumination traçait une allée menant à quatre tentes. Trois petits pavillons coniques qui encadraient un élégant chapiteau à trois fêtières. Les portières de brocart de cette grande tente étaient rabattues et laissaient deviner, dans un intérieur tapissé d'étoffes précieuses, un trône vide d'un goût exquis. Non loin des tentes, une cordelette blanche délimitait un parc où se reposait une écurie magnifique, formée de chevaux aussi racés que le palefroid des Dan. Une dizaine d'enfants, coquettement parés, jouaient ou se livraient à de menus travaux au milieu de cette aire. Quelques-uns s'occupaient à calmer les chiens, de grands lévriers à la robe neigeuse ou argentée, aussi gracieux que redoutables. Nulle attache ne les retenait, mais ils obéissaient au petit page, tout en tenant à l'œil les intrus. Les jolis garçonnets, quant à eux, ne prêtèrent qu'une attention distraite aux arrivants, comme si ce chevalier et ses suivants n'étaient que de peu d'intérêt. Le sire de Vaumacel et ses compagnons s'arrêtèrent devant les flambeaux. « Il n'y a que les animaux et les petits, » marmonna Nem. « Où sont-ils ?» Tombé du ciel, une ricanerie lui répondit. En levant la tête, les trois compagnons ne virent d'abord que l'obscurité qui engloutissait la ramée. Au bout d'un instant, ils devinèrent cependant les silhouettes de trois oiseaux posés sur les branches maîtresses qui les scrutaient d'un œil narquois.
« Coucou !»
moqua le coucou.
« Qu'est-ce que quoi ?»
cria le jet.
« Patatrac !»
jacassa la pie. Alors, comme si ce charabia eût évoqué le péril, surgit soudain la menace. Sur la gauche, un galop résonna brutalement sous la haie trait. Un grand chevalier jaillit de la nuit et ne s'arrêta qu'à quelques empans, la lance au poing et le flanc couvert d'un écu blasonné de trois jets en bande. Sous le haut à bec, il éclata d'un rire juvénile et dur. Au même moment, une charge retentissait à droite. Un second preux en armes accourait dans la lumière, dont le destrier était houssé d'une robe si splendide qu'elle chatoyait dans l'éclat des torches. Ce chevalier portait sur ses armes un oiseau qui ressemblait à un épervier, à moins que ce ne fût un coucou. Un nouveau fracas vint sur l'arrière. Émergea de la nuit un troisième cavalier, magnifiquement équipé, dont l'écu était armorié de deux pies tête-bêche aux ailes coudées. les trois arrivants interrompirent leur assaut à portée de lance, sous les vivats des enfants. Ils maintinrent leur coursier dans un piaffé orgueilleux qui faisait vibrer le sol autour du sire de Vaumacel et de ses gens. Les destriers des oiseleurs ronflaient et encensaient d'ombrageuses manières, tandis que leur maître conservait un silence plus menaçant encore. Les housses des chevaux, les cottes d'armes des preux, avaient été taillées dans un sandal de grand prix et brodées de motifs inspirés de plumage. Ce luxe dissimulait presque complètement les armures. Sous les lambrequins et les manches à barbe d'écrevisse, on ne discernait guère que le ventail des haumes et le gantelet droit. Les flambeaux allumaient sur ce métal lisse des reflets encore plus bleus que ceux du meilleur acier. Les oiseleurs étaient cuirassés dans des harnois de Cyane. Quand il fut remis de sa surprise, Eddan ouvrit la bouche pour saluer. Le chevalier Hopi lui coupa la parole.
Eh quoi, champion, quelle audace!
Bien que voilé par le ventail du home, ces paroles parurent scandées. Et cette voix! Cette voix! Il me faudrait décrire cette voix, mais voici que ma page se brouille, la fatigue me rattrape-t-elle? Ou ses yeux trop secs sont-ils encore capables de verser quelques larmes? Cette voix ancienne, cette voix amie, est pourtant si changée. De la main, je cherche dans mes cheveux un colifichet qui, bien sûr, ne peut plus s'y trouver. Si je ne l'avais perdu, le souvenir serait-il plus fidèle? Ma plume tremble. Je vais tâcher mon vélin. Dangereuse faiblesse, je reprendrai ce récit, sitôt mon cœur raffermi.